Nous allons lire ce matin dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 10 à 17. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul ». Et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous, ou bien est-ce pour le nom de Paul que vous avez reçu le baptême? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaïos. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez reçu le baptême par mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la maison de Stéphanas. Au reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle, non dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre exploration, notre étude de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons une série en cours et dans de précédentes prédications, nous avions étudié l'ouverture de la lettre. Dans cette époque antique, les lettres étaient assez codifiées, enfin, comme aujourd'hui, on commence par une salutation. Et dans sa salutation, Paul en profitait pour élargir la vision des Corinthiens. Il leur rappelait qu'ils étaient saints, c'est-à-dire mis à part, par appel. Ils ne s'appartiennent plus, mais ils appartiennent à Dieu, qui les a appelés. Ils ne se sont pas choisis les uns les autres, mais ils sont rassemblés par Dieu. Et ils sont appelés à se soumettre à leur Seigneur. Ensuite, de façon classique encore dans les lettres de l'époque, Paul enchaînait par des louanges adressées à ses destinataires. Il se disait heureux à leur sujet, heureux de voir que Dieu a fait pousser ce qu'il a semé, et qu'aujourd'hui, eh bien, il y a à Corinthe une église qui vit sur la richesse de la parole et de la connaissance. Il soulignait que Dieu leur a donné tous les dons dont ils avaient besoin et qu'ils n'avaient plus qu'à les utiliser. Mais s'il leur écrit, c'est qu'il a quelque chose à leur dire. Et sans plus attendre, il attaque avec le sujet qu'il a sur le cœur. La raison première pour laquelle il leur écrit, c'est la division. La division qui couve parmi eux et qui inquiète l'apôtre. Paul déplore qu'il règne dans l'église de Corinthe un esprit de parti. Chacun se range dans un camp. Il y a dans l'Église des débats, et ces débats deviennent de plus en plus vifs. Des camps se forment. Chacun se dit pour un tel ou pour tel autre. Chacun se réclame d'un maître à penser. Il ne faut pas noircir le tableau. c'est pas encore la guerre ouverte. La convocation pour l'Assemblée générale qui décidera de la scission de l'Église n'est pas encore envoyée. Mais ce qui embête Paul, c'est qu'il règne une drôle d'ambiance. Une ambiance qui fait que chacun se sent obligé de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est le sens de ce que Paul dit quand il dit « Chacun de vous dit, chacun de vous, tout le monde, chacun se sent obligé d'entrer dans tel ou tel camp. » C'est la contagion. Et Paul veut traiter cette contagion, arrêter que cette division continue de s'étendre. Alors, il faut savoir que cet esprit partisan est assez habituel dans la Grèce de l'époque. Il y avait différentes écoles philosophiques, dont les Grecs étaient friands, des écoles qui rivalisaient les unes avec les autres, à grands coups de discours, plus éloquents les uns que les autres, et les gens se ralliaient à telle ou telle école, se réclamant de tel ou tel maître. Et là, les défauts du monde qui les entoure s'immiscent dans l'Église. Il me semble que sur ce point, notre époque est proche de celle des Corinthiens. Nous vivons dans un monde qu'on qualifie de post-moderne, où l'autorité scientifique ne fait plus autorité. Chacun se forge sa propre opinion en choisissant parmi les différentes informations qu'il peut trouver, qu'il peut collecter. Et ensuite, eh bien, on s'interpelle, on s'abreuve d'emails, voire mieux, de commentaires sur Facebook, pour mettre en avant son camp. Mais revenons à Corinthe. Quelles sont les parties en présence? Parce que Paul cite un certain nombre de personnes et il se trouve qu'on connaît ces gens dont les Corinthiens se réclament. Ce sont des personnages qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Et le premier, bien, c'est Paul. C'est Paul, l'auteur de la lettre. Il est le fondateur de l'Église de Corinthe. On peut comprendre que certains, en particulier ceux qui se sont convertis par sa prédication, ceux qui ont été enseignés par lui, accompagnés par lui, on peut comprendre qu'ils se réclament de lui. Mais lui, ça le désole de se retrouver comme ça, embarqué, contre son gré, dans cette galère, instrumentalisé dans une guerre de camp. Le second acteur, c'est Apollos. Apollos, on le rencontre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, où on apprend que c'est un brillant orateur. Je vous lis, Actes chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Verset 27, comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. C'est lui qui, en quelque sorte, a pris la suite de Paul à Corinthe. Et Paul, plus loin dans son épître, dit qu'il l'encourage à revenir à Corinthe, ce qui laisse penser que Paul est content de ce successeur qu'il a eu, du travail qu'il a effectué, et en tout cas, s'il l'encourage à revenir, qu'il n'a pas de réserve, pas d'animosité à son endroit, mais qu'au contraire, il pense qu'il peut être utile à l'Église de Corinthe. Apollos, c'est le type de ce qui plaît à Corinthe. C'est un orateur brillant, convaincant, qui sait contredire écriture à l'appui. Et son profil, ça correspond à ce qu'attendent les personnes qui vivent à Corinthe à cette époque. Sans doute mieux que Paul, qui, de son propre aveu, n'est pas très éloquent. Mais ce serait trop simple s'il n'y avait que deux camps. Et on retrouve également ceux qui sont pour Céphas. Céphas, c'est Pierre. Pierre, le disciple de Jésus. Alors, rien ne nous indique dans le Nouveau Testament que Pierre se soit rendu à Corinthe. Mais peut-être que certains chrétiens sont effrayés par la liberté que prend Paul avec la loi juive. Et peut-être à ce moment-là voit-il en Pierre un appui pour contrer cette liberté avec laquelle ils sont mal à l'aise. On sait que Paul a eu un conflit avec Pierre. Ce conflit est rapporté en Galates, au chapitre 2. Pierre a fait preuve de faiblesse concernant l'accueil des non-juifs, et Paul l'a alors repris vivement. Mais ce conflit n'était qu'un épisode ponctuel, et Pierre et Paul sont d'accord l'un avec l'autre. On le voit d'ailleurs dans la deuxième épître de Pierre, où Pierre écrit à ses correspondants de bien prendre en compte l'enseignement de Paul. Pierre utilise son influence pour défendre Paul. Ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a un quatrième parti dans cette église de Corinthe, un parti différent des autres. En effet, certains se réclament de Christ. A priori, ça semble une bonne idée. Ne pas s'attacher aux hommes, mais s'attacher à Dieu. C'est sans doute la bonne démarche. Mais si Paul les cite ici, à côté des autres, c'est certainement que leurs motivations ne sont pas saines. Le théologien Barclay écrit à leur sujet que leur tort n'était pas de dire qu'ils appartenaient à Christ, mais de se comporter comme si Christ leur appartenait. Et un autre théologien, Maillot, ajoute « Paul sait très bien que les partisans du Christ, ceux qui voulaient des relations directes avec le Christ, sans passer par l'enseignement de qui que ce soit, ne sont pas les moins dangereux, ni les moins sectaires. » Parce que Christ a voulu des enseignants pour son Église. C'est lui qui les lui a donnés. Et rejeter ses enseignants, choisis par Christ, ce n'est pas être en lui. Les Corinthiens sont à côté de la plaque. Comme nous l'avons vu, tous ces enseignants ne sont pas opposés les uns aux autres, ils sont d'accord entre eux. Rien dans le Nouveau Testament ne laisse penser qu'ils puissent avoir des théologies différentes. Rien ne laisse penser qu'ils aient cherché à rassembler derrière eux des partis. Au contraire. Ce ne sont pas eux qui encouragent ces dispersions, ces divisions. Quant au Christ, il a voulu ses enseignants pour l'Église. Et les Corinthiens devraient se souvenir qui est celui qui leur a été prêché. Quel est celui au nom duquel ils ont été baptisés? Ils devraient non pas se rattacher à tel ou tel, fût-il brillant prédicateur, les eût-il baptisés, mais à celui dans le nom duquel tout cela a été fait. Ce n'est pas qui baptise qui est important, et c'est ce que montre Paul dans les versets 14 à 16, 14 à 17. Il semble dire qui baptise n'est pas important, et moi-même, je ne me souviens pas très bien de qui j'ai baptisé. Voilà pour le constat que déplore Paul. Mais comment propose-t-il de combattre ces dérives? La première chose que Paul met en avant, c'est une source de motivation pour ne pas se laisser aller dans la division. Cette source de motivation, il la répète. Je vous encourage par le nom de Jésus, verset 10. Le Christ est-il divisé, verset 13. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, verset 17. Ou encore, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de son sens. La source de motivation contre la division, c'est Jésus. Le Christ n'est pas divisé. Qui nous rassemble ici? C'est Jésus. Celui qui a été prêché. Celui au nom duquel ils se sont fait baptiser. Et c'est lui le plus important. Souvenez-vous, au début de la lettre de la salutation de Paul, il l'adresse à ceux qui sont saints par appel, verset 2. C'est Jésus qui a choisi ceux qui sont rassemblés dans cette église, qui les a appelés. Souvenez-vous également des louanges qu'il a faites pour cette église, versets 7 et 8. « Il ne vous manque aucun don de la grâce, c'est Jésus-Christ qui vous affermira jusqu'à la fin. » C'est lui qui les équipe pour la tâche qu'ils ont à accomplir. Christ est celui qui les rassemble et c'est celui qu'ils veulent suivre. Qu'ils lui rendent honneur en restant unis à lui. Mais Paul ne propose pas uniquement une motivation pour combattre la division. Il propose aussi une voie concrète. Et cette voie concrète, c'est de tenir un même langage et de vivre l'unité avec une même pensée et un même dessein, un même langage. Le langage, c'est ce qui est visible, ou plutôt, devrais-je dire, ce qui est audible. En effet, c'est par ce qui est dit, c'est par ce qu'on dit qu'on prouve qu'on est d'accord, ou alors qu'on montre son désaccord. On peut toujours trouver à redire, à faire des remarques dans un bon esprit, à user de la critique constructive. Mais ce n'est pas ça qui montre l'unité. Les couples mariés parmi nous s'en sont rendus compte. Quand on dit quelque chose et que l'autre vient le contredire, que ce soit méchamment ou sous couvert d'humour, ce n'est jamais apprécié bien longtemps. Ce qui montre l'unité, c'est quand on approuve ce que dit l'autre, quand on vient défendre ce qui est dit, apporter des arguments supplémentaires qui vont dans le même sens. Quand on est d'accord, ça s'entend. L'unité avec une même pensée et un même dessein. C'est ce que demande Paul, car il ne faut pas que leur accord ne soit qu'une façade sonore par le langage, un affichage hypocrite. Il faut que ce qui s'entend à l'extérieur soit le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. L'unité, elle se construit sur une même pensée et un même dessein. Ou, comme le traduit la Bible du Semeur, une même conviction et une même façon de penser. Il s'agit de penser la même chose, de rechercher à avoir la même compréhension de ce que veut Dieu, de sa parole, de ce qu'il attend de son Église. Également, Il faut avoir la même volonté de mettre en pratique ce qu'on comprend, de vouloir le convertir en acte. Parce que l'unité, ce n'est pas seulement l'absence de conflit. Ne faisons rien ensemble, nous n'aurons pas de problème. C'est un peu pauvre quand même. Non, la vraie unité se construit avec cette même pensée et cette même volonté d'agir. Alors, à ce moment-là, le langage est le même et l'unité est vécue et visible. Paul entre donc dans le vif du sujet de cet épître. Il dénonce le climat de division qui s'installe et invite à le combattre en regardant au Christ qui ne saurait être divisé et en travaillant à l'unité aussi bien visible que l'unité intérieure. Voilà pour les Corinthiens, mais nous, que faire de cette exhortation de Paul ? Chez nous, tout va très bien, non ? Nous ne sommes pas divisés. De temps en temps, une divergence peut s'exprimer, une nuance théologique peut s'installer, mais nous sommes loin de la contagion qui s'est répandue à Corinthe. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu notre assemblée générale, dans un climat sain et apaisé. Chez nous, ça va. Nous sommes unis. Vous êtes sûrs ? Le Christ est-il divisé ? Je pense que vous êtes au courant. Il y a d'autres églises qui se réunissent ce matin. Quel visage de notre Seigneur donne-nous au monde ? Alors, je ne vais pas tomber dans la facilité de prêcher un œcuménisme béat, dire que tous nos prédécesseurs qui se sont divisés avaient tout faux et que nous n'avons, nous, qu'à nous rassembler tous en une seule église. S'il y a plusieurs églises aujourd'hui, c'est le fruit d'une histoire, de personnes qui ont voulu être fidèles à Dieu et qui ont pensé que cette fidélité passait par là. Nous sommes bien mal placés pour les juger et nous devons faire avec cette situation dont nous avons hérité. Il se passera du temps, je pense, avant que l'Église soit complètement unie derrière son Seigneur et sincèrement, connaissant le cœur de l'homme, je crois que ce ne sera pas possible avant le retour de Jésus-Christ. Il est bien plus aisé de diviser que de rassembler. Alors, que pouvons-nous faire ? Déjà, nous pouvons demander pardon. Demander pardon à Dieu pour la situation que nous vivons et qui ne lui rend pas gloire. Et prions que sa gloire se manifeste malgré les divisions de son Église. Ensuite, nous pouvons ouvrir les yeux sur la réalité de l'Église qui dépasse l'espace de ces quatre murs, l'espace de ce bâtiment. Regardons les autres églises. Jésus les a appelées. Jésus les équipe de ses dons. Ça devrait nous rendre modestes quant à la certitude qu'on peut avoir d'avoir raison. Reconnaissons qu'ailleurs, dans d'autres églises, se vit la fidélité à Jésus-Christ. Et si nous aimons le Seigneur, alors aimons ce qui se fait en son nom, que ce soit dans d'autres villes ou dans d'autres églises de la ville où nous vivons. Essayons de vivre l'unité en Christ quand l'occasion se présente. Il y a des rencontres de prière inter-église, des cultes en commun, des rencontres comme Interfemmes bientôt en avril ou une réunion de prière vendredi, il me semble, à l'église protestante unie. C'est peu, mais n'hésitons pas à rendre ainsi gloire à notre Dieu. Mais surtout, n'ajoutons pas à la division. Se diviser, ça peut devenir une habitude, et il me semble parfois que c'est le cas chez nous, les évangéliques. Nous sommes assez forts pour créer d'autres églises pour des différents théologiques secondaires. Ou alors, nous sommes prêts à quitter notre église un peu trop facilement quand elle ne nous convient plus. Alors certes, certaines situations sont douloureuses et parfois, une séparation semble la seule issue, la meilleure ou en tout cas la moins pire. Mais soyons attentifs à ne pas tâcher l'image de Christ. Honorons-le. Recherchons l'unité. Soyons vigilants. C'est dans l'église locale que se joue le défi de l'unité. Pour réinterpréter quelque chose que dit l'apôtre Jean, si nous ne sommes pas capables de vivre l'unité avec ceux que nous voyons tous les jours, comment nous pourrons le faire avec ceux que nous ne voyons pas? Et pour vivre l'unité sans accroc, ça commence, eh bien ça commence par moi. Prenons garde de ne pas nous réclamer de tel ou tel théologien, de tel ou tel pasteur, de tel ou tel prédicateur, voire de tel ou tel site internet. Car la division commence souvent, comme à Corinthe, par un esprit de parti. Je disais, je crois que notre monde postmoderne est proche de celui des Corinthiens. Chacun est prêt à se rallier à un camp, à un groupe, et à diffuser, défendre ses idées plus parce qu'elles émanent de ce groupe que parce qu'elles sont vraies. Prenons garde de ne pas faire comme les Corinthiens et gardons-nous de laisser entrer ces excès de notre temps dans l'Église. Nous pouvons être tentés de suivre les successeurs d'Apollos. Ceux qui sont forts aux yeux du monde, les bons leaders, les visionnaires, ceux qui savent traduire le plan de Dieu en objectifs motivants, ceux qui savent mobiliser. Nous pouvons rechercher les successeurs de Pierre, ceux qui nous rassurent, parce que nous voyons en eux un conservatisme qui nous rappelle la foi de notre enfance, la foi de nos parents ou de nos grands-parents. Nous pouvons nous attacher aux successeurs de Paul, ceux qui ont construit notre Église, ceux qui nous ont conduits et que nous passons sur un piédestal par fidélité pour ce que nous avons vécu ensemble, pour ce qu'ils nous ont apporté. Tous ces conducteurs sont bons. Ils ont été voulus par Dieu. Mais suivons-les intelligemment. Reconnaissons qu'ils suivent Jésus et ne les instrumentalisons pas en les dressant les uns contre les autres. Ou bien, nous pouvons être tentés de nous réclamer de Jésus en droite ligne, mieux branché, plus fiable que tous les autres. Prenons garde à cette attitude. Prenons garde de ne pas verser dans le sectarisme. Non, regardons à Jésus, mais Jésus qui rassemble ses enfants. Jésus qui les équipe tous, qui donne des enseignants à son Église, des conducteurs pour le servir dans l'unité. Oui, regardons à Jésus qui unit, Jésus qui n'est pas divisé. Nous avons été ajoutés à une église locale, concrète, et pour beaucoup d'entre nous, c'est celle-ci. Efforçons-nous d'y vivre l'unité. Recherchons une même pensée, un même dessein. Efforçons-nous de tenir un même langage. Il est temps de conclure. La raison qui amène Paul à écrire à cette église de Corinthe, c'est qu'elle vit dans la division. Il lui écrit pour l'encourager à se détourner de cette voie dans laquelle elle s'engouffre. Au contraire, il l'exhorte à rechercher l'unité. Malheureusement, l'histoire montre que l'exhortation de l'apôtre n'a pas été suivie par son Église. Aujourd'hui, l'Église est divisée et la division peut parfois devenir une tentation, voire une habitude. Que faire ? Laissons-nous interpeller par l'apôtre Paul, par son exhortation qui nous parvient à travers la Bible, et travaillons nous aussi à rechercher l'unité. Combattons nos penchants à nous diviser, à chercher à nous rallier à tel ou tel camp, tel ou tel conducteur, telle ou telle école de pensée. Recherchons plutôt le Christ, celui qui nous appelle, celui qui nous équipe et celui qui n'est qu'un, indivisible. Prenons soin de notre unité, prenons soin de notre Église et rendons gloire à Jésus-Christ. Amen.